Petite manie et son impertinence, d'hier à demain, de l'humour à l'amour, de récits, de sujets d'invités, d'artistes. Et à mes côtés, nous disons bonjour Coco.
Bonjour.
Coco qui aujourd'hui nous fera une petite rubrique qui est le thème de l'émission qui est dédié à la pin-up. Et nous disons bonjour Angel.
Bonjour.
Qui nous Angel. Mettra quelques petites musiques bien sympathiques oui. du monde de la pin-up. Et nous allons dire bonjour à Valentine Pompadour que nous allons avoir au téléphone pour l'interview d'ici quelques temps. C'est une pin-up internationale qui a fait la couverture de Retro Lovely, un magazine vendu à plus de 2 millions et à peu près le même nombre d'abonnés. Elle a fait ce shoot pour faire la couverture du magazine à Las Vegas. Donc, ouais, une superbe pin-up. Donc, c'est quoi une pin-up ? Donc, d'après Wikipédia, une pin-up est une représentation de la femme dessinée ou photographique dans une pose attirante ou sexy, d'où l'expression anglo-saxonne de pin-up girl qui pourrait se traduire en français par femme épinglée sur le mur. Envie de découvrir et de remonter le temps pour une histoire incroyable du monde de la pin-up. Nous allons venir tout à l'heure avec Valentine, mais pour l'instant, actualité femme, beaucoup d'actualité aujourd'hui.
Ah oui.
C'est parti. Rubrique actualité féminine. Première actualité, à Rennes, des protections hygiéniques gratuites pour les étudiantes. Ce qui est pas mal.
Bah, bien, bien.
Avoir ces règles peut représenter un véritable budget pour les femmes les plus précaires. C'est notamment le cas des étudiantes qui, chaque mois, doivent débourser une dizaine d'euros en protection hygiénique. Consciente de cette problématique, l'université Rennes 2 a décidé de leur venir en aide.
Bah,
c'est plutôt sympathique.
C'est super, ouais.
Deuxième actualité. Patrick Bruel, accusé d'exhibition sexuelle et harcèlement sexuel par une esthéticienne.
Ah ben,
ouais, ça n'arrête pas en ce moment. Donc, en concert à Châlons-en-Chapaigne, dans la Marne, ce dimanche 8 septembre, Patrick Bruel a été entendu par les gendarmes suite aux déclarations d'une jeune femme de 21 ans qui accuse le chanteur d'exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel. Et évidemment, la star nie les faits. Affaire à suivre. Accusé d'attouchement sur sa fille, Woody Allen ose se positionner en persécuteur de MeToo. On n'arrête pas de cette affaire. Donc, ça continue. Je pense que d'ici... Enfin, dans l'actualité féminine, on entendra encore beaucoup, beaucoup parler d'harcèlement, de violences sexuelles et de violences conjugales tout court. Ensuite, Miss Algérie 2019, à la pompe foncée, et son élection ne plaît pas à tout le monde. Elle est la première de l'histoire originaire du sud du pays à être élue Miss, mais au lieu d'être acclamée et félicitée, elle subit un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. La raison ? La nouvelle Miss Algérie élue le 4 janvier à la peau foncée. Et pour certains, cela ne représente pas la beauté de la femme algérienne.
D'accord.
Muriel Robin interpelle Emmanuel Macron sur les violences conjugales. Donc un petit peu un apartheid à l'actualité de la semaine dernière. Samedi 7 septembre, Muriel Robin était invitée dans On n'est pas couché. L'humoriste s'est exprimé sur les violences conjugales. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va continuer pendant toute l'année. Et je pense que tout le monde doit se mobiliser
oui,
contre, justement, toutes les violences faites aux femmes. Ce qui serait bien et que le gouvernement puisse bouger un petit peu. Je voulais finir sur une petite note un petit peu plus humoristique. Donc un bracelet vous envoie une décharge si vous dépensez trop ou vous mangez mal.
J'en veux pas.
Ça peut être pas mal pour certains ou certaines. Si vous faites partie de ces personnes qui n'arrivent jamais à se contrôler quand il s'agit de shopping ou de nourriture, nous avons peut-être une solution pour vous. Amazon vend un bracelet qui devrait en effet vous aider à venir à bout de vos grands vices. Donc ça envoie une petite décharge à chaque fois que
D'accord.
on mange beaucoup ou voilà. où on fait du shopping pour éviter, pour ceux qui n'arrivent pas à se contrôler du tout, quoi.
C'est... Moi, je me contrôle très bien, ça va.
Tu crois?
Oui.
On va passer, du coup, à l'actualité. Ensuite, l'invité. Et on va enchaîner avec une petite musique. Angel, tu nous proposes quoi?
Alors, donc, je vais vous mettre Let's Have a Party de Wanda Jackson, sorti en 1960.
Eh bien, on écoute tout ça. Yeah. Ça peut être sympa. Purement pin-up.
Oui.
On espère que ça va vous plaire.
In the middle of the room, let's have a party. Woo, let's have a party.
Nous voici de retour en direct avec Valentine Pompadour. Est-ce que nous avons Valentine au téléphone ?
Bonjour.
Bonjour Valentine,
bonjour,
comment vas-tu ?
Valentine.
Ça va très bien, bonjour, ça va très bien, et vous ?
Bah, très très bien, écoute, on est content de t'avoir au téléphone et de pouvoir parler du monde de la pin-up aujourd'hui.
Avec grand plaisir, pareillement.
Donc on va commencer déjà par une première petite question. C'est quoi une femme pin-up ?
Bah, déjà, une pin-up, c'est une femme qui est libre de son corps.
Mm-hmm.
Souvent, on tente de nous la présenter comme femme objet. C'est totalement faux et on pourra en explorer comment, même dans le passé, parce que même dans le passé, elle n'était pas femme objet. Donc ça, déjà, ouais. C'est le premier point qui est très important. Donc, c'est une femme qui est libre de son corps, qui exprime son sex appeal,
mm-hmm.
Et qui le représente en pose.
D'accord.
Donc, oui, ce n'est pas une femme...
C'est pas une femme objet.
Voilà. Qui est alanguie, qui attend l'homme du mâle.
Ouais.
Exactement. Et même à l'époque non plus. Donc aujourd'hui et même à l'époque. Et voilà, elle exprime son sex appeal, sa féminité. Et moi, je le vois comme la célébration de la femme. C'est une liberté d'expression pour la femme, et c'est selon moi une célébration de la femme, de son corps, mais de ce qu'elle est et de sa liberté.
En dehors de ce qu'attendent les hommes.
Exactement.
Voilà. Donc c'est vraiment en dehors, pas
c'est
comme
ça.
On pouvait croire.
Voilà.
Parfois on peut croire qu'en fait c'était purement pour les hommes, fait exprès pour les hommes, mais en fait non, c'est vraiment purement pour elle-même.
Oui.
Même si à l'époque, on ne parlait pas de confiance en soi, on parlait plus de liberté, mais
oui.
C'était vraiment purement pour elle-même.
Ah ben oui, mais tout à fait, hein, parce qu'à l'époque, on parlait exactement de liberté, et elle était en quelque sorte, à l'époque, des militantes même pour la liberté des femmes,
mm-hmm.
Parce que c'était une façon de s'exprimer. Parfois à l'époque pouvait être considérée des fois même vulgaire par certains. Si on regarde exemple pour Betty Page,
mm-hmm.
c'était quand même une des premières à faire du bondage, des choses qui sont plutôt considérées comme vulgaires ou qu'il faut cacher. Mais ce qui est de très intéressant, si on voit exemple, je vais vous donner un exemple des années 40. C'est une
mm-hmm.
de mes pin-up préférées. Qui est Lily Saint-Cyr. Lily Saint-Cyr était la reine des effeuilleuses, la reine du burlesque montréalais.
D'accord.
Et Lily Saint-Cyr, elle a défié l'Église. C'est-à-dire qu'à l'époque, en Amérique du Nord française, c'est-à-dire au Québec, à Montréal, qui était une grande ville qu'on appelle la petite sœur de New York, donc qui était mm-hmm. très ouverte au spectacle, aux jeux, mais elle était quand même régie par un gouvernement du Québec qui était sous l'Église, encore contrôlé par l'Église dans les années 40. Et il y avait une sorte d'escouade de la moralité. Donc même si on tolérait les jeux et les spectacles, il était interdit d'entrer... ils avaient fait une loi comme quoi qu'il était interdit d'entrer sur scène, se dévêtir et de ressortir de scène nu. Lily Saint-Cyr, très maligne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a innové un numéro où elle est entrée nue, sur la scène, et elle s'est raviée en sortant de scène.
C'est ce qui est pas mal.
Ouais.
Elle a fait le contraire de ce qu'on lui a dit.
Ce qui est très intelligent et qui peut faire bien sourire, et on dit bravo. Parce
c'est
que là,
sûr.
On est dans un acte totalement de protestation, si elle a défié l'Église. Et ce qui s'est produit, c'est que immédiatement après ce numéro, l'escouade de moralité est venue procéder à son arrestation. Et elle a été amenée devant un juge, et finalement, par la suite, son avocat a réussi à faire tomber les accusations, ce qui a permis, en fait, elle a gagné, ce qui a permis une ouverture aux femmes
voilà,
à pouvoir
voilà.
être libres de faire des spectacles, de d'exprimer leur féminité, d'exprimer leur sex appeal sans qu'on leur interdise quoi que ce soit.
Mais heureusement qu'aujourd'hui, on n'est plus poussé devant le tribunal dès qu'on fait quelque chose.
Oh.
Parce que du coup... Mais du coup, ça donne un peu l'ambiance à l'époque où c'était pas
voilà.
facile pour elle, en fait.
Mmh, tout à fait. Donc, elle était en quelque sorte militante. Donc, moi, je vois la pin-up, je vois vraiment la pin-up comme étant une militante des droits de la femme, d'avoir le droit de s'exprimer, d'exprimer la féminité, de dire, bah, un corps de femme, c'est beau, on a le droit de le montrer, le sex-appeal, l'érotisme, c'est beau, on a le droit de le montrer, et voilà.
Donc, oui, la nudité de la femme, c'est pas quelque chose ni de vulgaire, ni de moche, quoi.
Non, voilà, et même d'exprimer un sex appeal, c'est une séduction, c'est pas vulgaire, et je pense qu'elles ont voulu justement montrer qu'elles avaient le droit de le faire sans avoir de jugement, et même d'avoir des accusations criminelles, ce qui était quand même assez intense.
Ouais, c'est fort ça quand même.
Oui, voilà. Ouais. Et on a aussi des hommes qu'on peut remercier qui
ont accepté tout ça et qui ont défendu aussi ces femmes à cette époque.
Exactement, voilà. Donc des artistes qui les ont représentés en dessin, qui les ont photographiés, c'est grâce à ces hommes-là aussi qui ont travaillé avec ces femmes-là qu'on a pu avoir des pin-up qui s'expriment et qui représentent
la vraie pin-up. Mais comment elle... Comment peut-on faire la différence entre une femme, on va dire, de tous les jours et une pin-up ? Qu'est-ce qui les différencie physiquement ?
Physiquement, c'est-à-dire que pour être une pin-up, il n'y a pas de critère spécial au niveau physique, c'est-à-dire au niveau des formes, on peut être grande, petite, taille plus, taille très petite, et ça, il n'y a pas de, c'est vraiment, c'est au niveau de ce qu'elle dégage, c'est au niveau de son attitude, son charisme, de comment elle s'exprime déjà. Et au niveau du mannequinat pin-up, évidemment, c'est de savoir bien représenter les poses de l'époque. Si on parle du mannequinat pin-up aujourd'hui, exemple. Mais de ce qui différencie une femme, c'est qu'il n'y a pas de critère spécial au niveau du physique. C'est vraiment au niveau de son attitude, et qui est une sorte de revendication, qu'elle revendique son sex appeal et sa féminité.
Mais donc, toute femme peut devenir pin-up.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une tenue... Enfin, on remarque qu'il y a de toute façon une tenue vestimentaire à avoir, une façon de se coiffer aussi à avoir, mais quelle est-elle précisément ?
C'est sûr qu'au niveau des coiffures, on va opter beaucoup pour les coiffures des années 40, 50 ou dans les reproductions de ces années-là, surtout. Et parce que la pin-up, en fait, le mot pin-up est sorti vraiment dans les années 40, à l'époque de la guerre, et vraiment dans les années 50, là, ça prend forme, même s'il y en avait aussi dans les années 30, hein, parce que ça, il y avait quand même des femmes illustrées dans ces années-là.
Comme Betty Boop.
Oui, voilà, il y avait des illustrations aussi de l'artiste Varga ou de l'artiste Gilles Green, exemple. Et là, on parle des années 20 aux années 50. Mais précisément, au niveau des coiffures, on reproduit souvent 40-50. Et au niveau des vêtements, pour une pin-up, c'est sûr qu'on va aller dans les vêtements qui étaient plus provocateurs à cette époque-là. Donc la pelle dress, ce qu'on appelle la robe crayon.
Ouais.
Qui va bien épouser les formes, la jupe crayon, les hauts où est-ce qu'on va avoir un décolleté intéressant, qui vont mettre la poitrine en valeur. Donc, elle a une démarche aussi, la pin-up. Quand on voit une pin-up dans une belle robe crayon, où on a toutes ces formes bien mises en valeur et qu'elle y ajoute une démarche, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est vraiment très joli visuellement à regarder.
Et du coup, en fait, il faut un passage obligatoire pour la coiffure.
Oui.
Parce que ça peut pas être une coiffure lambda, on va dire.
Ah non, pas du tout, effectivement.
C'est pareil, en fait, de ce que j'ai compris par rapport à la tenue. Il n'y a pas 36 000 tenues, puisque c'est principalement la robe crayon.
Oui, ou un petit jeans taille haute, crayon. Mm-hmm. Hein, à l'époque aussi, les jeans, ça commençait, hein, les femmes en pantalon, c'était pas très courant. Les femmes étaient souvent en jupe et plutôt évasées, qui épousaient pas encore beaucoup les formes. Mm-hmm. Donc là, on va vraiment dans les vêtements qui épousent les formes. Donc ça peut être aussi un jeans très serré, et taille haute, qui va vraiment bien définir la taille, parce mm-hmm. qu'on parle souvent aussi de taille de guêpe, de ce qui ouais. définit la pin-up. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille de guêpe, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de femmes, même encore aujourd'hui, on le voit dans les pin-up plus modernes aujourd'hui, qui font du mannequinat pin-up, mm-hmm. même si elles sont taille plus, exemple, les femmes. Mm-hmm. Elles vont faire beaucoup du corset. Pour mm-hmm. Affiner la taille, pour avoir l'effet taille de guêpe, c'est-à-dire d'avoir les formes d'une poitrine, exemple, volumineuse, une petite taille et des grandes hanches. Donc, on peut reproduire ceci par les vêtements aujourd'hui, c'est-à-dire que les pencil dress, c'est des robes comme ça qui sont faites pour mettre la poitrine et les hanches en valeur.
D'accord.
Donc, en gros,
la pin-up, son corps, c'est un peu un 8.
Oui, c'est ça. Et même si elle est taille plus ou qu'elle soit très mince, il y a moyen par les vêtements
d'accentuer.
C'est ça. Ouais. Voilà.
De bien souligner les formes.
Voilà.
Exactement.
C'est une femme qui met ses formes en avant, sans vulgarité. Voilà. Et qui assume qui elle est.
C'est ça.
Donc du coup, la pin-up de toujours être jolie.
Oui, oui, et de vraiment d'exprimer une féminité et le sex appeal, qui est une force de la femme.
Ouais, voilà. Mais c'est vraiment sex appeal, c'est pas.
Oui.
Parce que c'est vrai que souvent on fait, je pense, l'amalgame entre dans les années 50 entre la mannequin. Des années oui. 50, la modèle rétro.
Oui.
Et la pin-up, c'est vraiment une autre catégorie.
Oui, 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 tout à fait, on est bien d'accord, oui.
Donc, du coup, pour en revenir un petit peu à l'histoire, la première pin-up, est-ce que tu as une date exacte de la création de la première pin-up?
Une date exacte, pour dire la première pin-up,
ouais.
je pourrais pas vraiment dire, parce que pour moi, les pin-up, c'est déjà celles qu'on pouvait voir en dessin dans les années 20, 30, mm-hmm. 40, avant qu'on sorte le mot pin-up, qui signifie en fait épingle au mur,
ouais.
qui date des années 40, en fait, qui étaient des femmes... Des femmes qui posaient et qui étaient envoyées en photo aux soldats américains pour remonter le moral des troupes, si on mm-hmm. veut dire. Elles étaient épinglées au mur. Et si on en a un bel exemple, qui est Marilyn Monroe, qui a commencé sa carrière de cette façon, pendant mm-hmm. la guerre, en faisant du mannequinat pin-up. Et à l'époque, on la surnommait, en fait, c'est les soldats l'avaient surnommée Fire Rocket, ce qui veut dire la roquette en feu, parce qu'elle était rousse à l'époque.
Ça devait dire à quel point elle devait allumer, enfin, de façon correcte.
Elle allumait les queues.
Oui, voilà. Ben voilà, c'est
elle
ça.
Allumait la roquette.
Elle allumait la roquette, donc Fire Rocket, Marilyn Monroe, à l'époque qu'elle était rousse, dans ses débuts, en mannequin pin-up. Mm-hmm. Et donc, si on peut dire, dans les premières, à l'époque de la guerre, on peut compter Marilyn Monroe, effectivement, elle y a sa place, et c'est de cette façon-là même qu'elle s'est fait connaître.
Mm-hmm.
Par contre, ce qui est très intéressant, il y a des artistes, exemple comme Varga, qui les ont dessinés, ou Gillis Green. Ce qui est très intéressant, c'est que Varga, on a de 1920 à 1950 quand même, mm-hmm. donc ça date avant la guerre. Et aussi Gillis Green, qui prenait ses femmes en photo, et à partir des photos, il les reproduisait en dessin.
Mais donc du coup, ça a commencé par quoi? Donc ça a commencé par les photos, en fait.
Je pense que ça a commencé par des dessins, des illustrations de dessins et des photos. Et parce que même au début, on prenait des photos et on faisait des dessins avec. Donc je pense mm-hmm. que ça commençait vraiment avec des illustrations de oui. dessins. Et ce qui est très intéressant, par contre, donc là, c'est très difficile à cause de ça, de pouvoir dire vraiment quelle femme a été la première à être prise en photo et reproduite en dessin. Elle serait la première pin-up. c'est très difficile de pouvoir dire qui est la première, en fait. Mais ouais. On peut dire que ça a commencé de cette façon-là. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que souvent, on croit que la pin-up et le mannequinat pin-up vient des États-Unis. C'est faux. En fait, les Français étaient très précurseurs des pin-up.
C'est-à-dire que
Oui, souvent les gens l'ignorent parce qu'on en parle moins, parce qu'on a parlé beaucoup plus des Américains à l'époque de la guerre. Mais si on regarde, j'ai une revue de 1933 qui s'appelle Paris, et là on est dans du nu ou pin-up en lingerie. Et c'est 1933 et c'est vraiment pin-up, les poses pin-up, nu ou lingerie. On a aussi Paris Sex Appeal, qui était aussi un magazine français de 1934.
Oui.
Et dans celui-ci, c'est très intéressant parce qu'on voit justement pin-up nu ou en lingerie, encore dans les poses pin-up, et on parle déjà même de tatouage. Et on est en 1934 et c'est un magazine français.
Comme quoi, c'est bien de connaître l'histoire.
Oui. Bah oui, bah on se dit finalement que les Français ont été précurseurs finalement dans tout ça.
Oui, on a caché les choses, je crois, parce que tout le monde est persuadé que c'est aux États-Unis que la pin-up a pris de l'ampleur. En fait, on s'est tous un peu inspirés, je vais dire, d'un pays d'un autre où chacun avait. Mais est-ce que la pin-up était différente d'un pays à un autre ou c'était le même style?
Bah non, parce que pas du tout, parce que quand je regarde. Ces magazines français, que ce soit le Paris Sex Appeal ou Paris Hollywood, qui lui est des années 50. Là, on a Paris Hollywood des années 50, on nous met en couverture. Là, on commence à nous mettre des Américaines. Marilyn Monroe, James Mansfield. Mais avant, si on regarde celle des années 30, on a vraiment des pin-ups françaises. Et qui sont vraiment dans les poses qu'on peut revoir dans les années 50. Donc, il n'y a même pas une différence au niveau des poses.
Oui. Exactement les mêmes poses.
Exactement les mêmes poses, exactement le même style. Donc, on peut dire pin-up. Et même si on regarde Varga, ça commence en 1920. Et le livre que j'ai sous la main, on est vraiment dans des poses pin-up qu'on a aussi dans les années 40 ou 50.
Ça, c'est bien. Ouais, au moins, on sait que les Français n'étaient pas en retard.
Ah non, pas du tout.
Ça, c'est bien. Parce qu'on peut croire que c'est les Américains. Et en fait, on remarque qu'en France, ils étaient tout aussi dans la même lignée, quoi, en fait.
Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que ça aurait peut-être même commencé un peu plus en France, les pin-up. Petite anecdote très drôle. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Retour vers le futur, Back to the Future, avec Michael J. Fox.
Si.
Bon, à un moment donné, il retourne dans les années 50. Et le dur du film, là, je ne me souviens plus son nom, là, celui qui
Michael
fait la guerre
G.
à
Fox.
Ses parents.
Voilà. Oui.
Le méchant dans le film, dans le retour dans les années 50, il est en train de regarder une revue. Et ça, c'est un film américain. Et le magazine qu'il regarde, c'est écrit en français et c'est des pin-up.
Ah bon, d'accord. Oui. La prochaine fois, on conseille aux Français, j'allais dire aux Français, oui, aux Français, d'aller regarder encore une fois le film et de s'attarder justement sur ce petit moment où il lit justement. On va juste s'arrêter, faire une petite pause musicale et on reprend Valentine. Tout de suite après. Donc, Angel, tu nous proposes quoi comme musique?
Alors, donc, cette fois, je vais vous mettre I Little Dreamboat de Rose Maddox, sorti en 1956.
On écoute ça. Et on te dit à tout de suite, Valentine.
À tout de suite. Hey, little dreamboat, you want my heart. Oh, hey, little dreamboat. You won my heart. You knew that I would love you right from the start. Oh, hey, little dreamboat, I wanna make you mine. Yeah, hey, little dreamboat, I wanna make you mine. I wanna love you till the end of time.
Hey, little dreamboat.
Hey,
little dreamboat.
Hey,
little dreamboat. rainbow.
Hey, hey,
hey, little rainbow.
Hey, hey,
hey, little rainbow.
I'm gonna love you till the end of time.
Nous revoici parmi vous et Valentine est-elle toujours avec nous?
Oui, je suis toujours là.
Donc on va continuer cette petite interview qui nous a permis de découvrir que la pin-up a été française aussi.
Oui, tout à
donc,
fait.
Mais on connaît évidemment Brigitte Bardot.
Ah bah oui.
Mais y a-t-il eu d'autres pin-up à ta connaissance française ou parce que nous à l'esprit c'est vrai qu'à part Brigitte Bardot. Oui.
C'est sûr que Brigitte Bardot, on peut dire que c'est la plus grande des pin-up françaises. Bon, c'est sûr que moi, au niveau pin-up français, j'ai un petit peu moins de connaissances parce que même si je suis française d'origine, je suis née en Amérique. Donc, j'ai plus de connaissances au niveau des américaines,
américaines
et même les américaines françaises qui sont moins connues. C'est sûr que Brigitte Bardot est reconnue mondialement, donc oui, je la connais. Par contre, moi, ce que je découvre, c'est avec ces magazines de l'époque qui datent des années 30, que forcément il y avait des pin-ups et il devait forcément en avoir des
Françaises
à cette époque-là, françaises. Oui, tout à fait.
Ça sera à étudier le sujet.
Faudrait
trouver des magazines anciens. Donc tu peux nous rappeler les magazines français, c'était donc Paris?
Oui, alors on a Paris Hollywood qui est des années 50.
Mm-hmm.
On a Paris qui est de 1933 et on a Paris Sex Appeal. Donc on nomme bien le Sex Appeal. Donc le Sex Appeal est bien associé à la pin-up, c'est très important. Donc Paris Sex Appeal qui est de 1934.
Il y avait déjà une libération des mœurs à cette époque.
Voilà.
Ouais. Ce qui est bien, parce qu'on apprend des choses. Parce que maintenant, on se dit qu'à l'époque, ça devait être pire. Et en fait, on découvre que peut-être pas tant que ça. Évidemment, les femmes avaient peut-être sûrement moins de liberté. Mais il y avait déjà des choses qui étaient en place et qui ont peut-être amené... ce qui est aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui on est peut-être un petit peu trop libéré sur certains trucs, mais c'est bien. Peut-être.
Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on essaie au contraire de revenir vers quelque chose qui veut nous empêcher ou nous dire que c'est mal ou vulgaire. Parce que je vais vous dire, moi ça fait 2 ans que je vis en France et je le remarque. Il y a une opinion d'une certaine catégorie de personnes qui vont dire qui vont nous pointer du doigt en disant c'est vulgaire. Mais non, c'est pas vulgaire. Puis à l'époque, ça existait déjà. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on devrait avoir évolué, on nous dit aujourd'hui que c'est vulgaire et que ça n'a pas sa place d'être? Et même par moments, certaines personnes nous disent c'est pas pin-up. Alors ils n'ont pas de connaissance réelle de ce que c'est la pin-up. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous faire revenir en arrière en nous disant c'est vulgaire, ça se fait pas ou quoi que ce soit. Et que je me dis, on a encore en fait un combat actuel à se défendre puis à s'exprimer dans notre féminité. Le combat,
oui, alors comme
là,
tu dis
fait.
Très bien que avant apparemment Paris Sex Appeal ça existait donc en 1933, c'est ça si je me trompe?
Voilà.
Pas
voilà, Paris Sex Appeal c'est 34. Bon, c'est un peu la même chose.
Oui, c'est un peu la même chose, c'est les années 30. Mais voilà. Non, c'est vrai que du coup je pense que ça sera tout le temps, il y aura des mentalités qui seront à l'opposition de ce qu'on a envie de faire en tant que femme, on va dire. Donc
voilà.
Je pense que peu importe ce que les femmes vont faire, on n'est pas parti dans la bonne... historiquement parlant, on n'est pas placé dans la bonne... non, dans le bon truc. Donc,
on le voit au niveau de la mode du rétro, exemple. Dans la mode du rétro, on voit beaucoup de grandes robes avec les grands froufrous et des robes circle dress, comme on peut dire, la robe en cercle. Hein. On voit ça beaucoup et on a des gens justement qui vont aimer ce type de vestimentaire rétro, mais qui est surtout, si on regarde à l'époque, qui était surtout ces robes-là étaient surtout associées plus à la femme à la maison, la femme au foyer.
Ouais, oui.
La pin-up, elle avait une vestimentaire beaucoup plus sexy et provocante. Donc,
c'était pas la femme au foyer.
C'était pas la femme au foyer. Donc quand on nous dit aujourd'hui, par exemple, des gens qui aiment le rétro, qui vont porter plus ce que moi je considère des vêtements de femme au foyer, et qui vont nous dire, ah ben ce que vous faites c'est pas pin-up parce que c'est vulgaire. Une pin-up est pas vulgaire. Bah c'est parce que vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une pin-up. Je vous invite à faire des recherches. Parce que vous êtes plutôt même avec une mentalité, parce qu'à nous dire ça, en fait, je pense que non seulement elles se vêtissent, ces personnes, comme des femmes au foyer à l'époque, mais qu'elles reviennent avec une mentalité de femmes au foyer à l'époque aussi.
Elles ont tout intégré, en fait.
C'est ça, qu'il ne faut pas être vulgaire, qu'il ne faut pas montrer que si on est sexy, qu'on a un sex appeal, on est vulgaire. Mais je me dis, mais en fait, on est dans le rétro femme au foyer. Ce n'est pas pin-up du tout.
D'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle beaucoup la liberté d'autrui. Les gens ont beaucoup de mal à accepter que l'autre ne soit pas comme lui.
C'est ça.
Et je pense que être pin-up, faut faire le choix de l'être. Voilà. C'est ce qui est important. Et en ayant choisi d'être ce qu'on a envie d'être, parfois ça ne correspond pas aux autres. Peut-être parce que ils aimeraient faire pareil qu'ils ne peuvent pas. Enfin bon, ne nous éloignons pas du sujet de la conversation. Donc la pin-up, revenons à la pin-up. Donc on découvre évidemment que la pin-up a été française. Alors peut-être que on découvrira aussi d'autres noms de pin-up. Ça serait intéressant d'aller chercher du côté français, mis à part Brigitte Bardot, parce que Brigitte Bardot c'est comme les années 50-60. Il y en aura sûrement dans les années 30 qui étaient... Je sais que les feuillages a débuté en France. Donc les Français ont fait pas mal de choses. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas que dans d'autres pays, parce que généralement les Américains sont précurseurs de beaucoup de choses, et là pour le coup c'est les Français, ce qui est bien.
Ah bah oui, le feuillage, oui, c'est très français. Puis d'ailleurs, si on peut regarder les artistes même qui se produisaient en Amérique au niveau de les feuillages, elles prenaient souvent des noms français.
Ah oui, ben tu vois, comme quoi,
ouais.
Coco.
Ouais.
Les Françaises sont bien aussi, hein, c'est bien.
Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et en Amérique, en fait, ils aiment beaucoup ce côté de la pin-up française. Ils aiment beaucoup le côté feuillage français. Si on regarde aujourd'hui, même si on va aux États-Unis, on va encore nous parler du Moulin Rouge. Tout le monde connaît.
Ouais.
Voilà. Et c'est même identifié à la France. Donc,
c'est bien.
Ah oui, c'est super.
C'est bien. Et dis-moi, les pin-up les plus célèbres, alors de la plus ancienne en date à la plus récente, on va dire.
Bah, les plus célèbres, il y en a eu tellement. Donc de dire les plus célèbres, c'est sûr que Marilyn Monroe, je pense...
La pin-up...
C'est la plus célèbre, la plus connue aussi, si on peut dire. Et moi, je trouve qu'elle a réalisé beaucoup de choses. Elle a réalisé beaucoup, beaucoup de choses, c'est-à-dire, elle était mannequin, ensuite...
Actrice,
chanteuse, et elle a créé sa propre maison de production. Pour être indépendante, c'est quand même énorme à cette époque-là.
Oui, pour l'époque. Pour l'époque, il faut bien se dire et réaliser que c'était quelque chose d'énorme que de se battre en tant que femme indépendante.
Voilà. Sinon, je peux dire qu'il ne faut pas oublier le nom de Betty Page.
Aussi,
alors là,
oui.
C'est très important. Betty Page qui est dans un autre style complètement. Mannequin pin-up aussi, qui nous fait des vidéos, des shows, hein, elle fait du show spectacle un peu... qui pouvait être considéré très très vulgaire à l'époque, mais là si on peut dire on a une vraie pin-up avec Betty Page, et même elle va transgresser des
codes,
règles.
Des codes et des règles.
Tout à fait, en exposant du bondage, du fétichisme, on peut dire du fétichisme aussi.
Mais il y a une histoire avec elle, elle a donné la fessée en public et elle avait été jugée pour ça, je crois, si je me trompe pas.
C'est possible
parce qu'elle a été beaucoup jugée de toutes les façons.
Oui, ça c'est sûr. Ben voilà, comme on peut voir aussi, c'est ça, quand on dit qu'elles sont précurseurs, ces femmes-là, de quelque chose, d'un certain combat féminin, que ce soit Betty Page ou justement l'artiste burlesque, les feuilleuses qu'on parlait tout à l'heure, Lily Saint-Cyr, qui a quand même, on a procédé à son arrestation, on l'a mis en prison quand même.
Ouais.
Donc, oui, non, mais Lily Saint-Cyr, d'ailleurs, elle est devenue actrice après, à Hollywood. Donc, on peut dire que c'est une grande pin-up connue aussi. Bon, James Mansfield aussi, qu'on
tout le monde connaît. J'ai une question, parce que parfois, on voit passer cela sur les réseaux sociaux. Est-ce que Marlène Dietrich était connue pour être pin-up?
Je ne sais pas si je la mettrais dans la classe des pin-up.
Parce que, quand on regarde bien, même Audrey Hepburn, c'est un petit peu sur le fil du rasoir, on va dire. Ce sont effectivement des actrices.
C'est ça, voilà. C'est plus des actrices que des pin-ups. C'est différent.
Ouais, elles sont...
On peut les mettre dans les actrices glamour, ouais. Mais je ne dirais pas pin-ups.
C'est plus des actrices classe.
Ouais.
Parce que Audrey Hepburn était danseuse.
Sophistiquée.
Donc... Oui, sophistiquée aussi. Ouais, ouais. Parce que Audrey Hepburn était danseuse à la base. Donc évidemment, elle a une gestuelle qui peut nous dire que qu'elle peut être pin-up parce qu'elle est très classe, très glamour. Mais c'est vrai que Marlène Dietrich et Audrey Hepburn, c'est à se poser la question.
C'est pas la même attitude.
Oui, pas vraiment.
Même Brigitte Bardot, je pense qu'elle, même si c'est une actrice, une mannequin, mm-hmm. et qu'elle a peut-être pas fait des photos très poussées pin-up, si on peut dire.
Elle a jamais posé nue, Brigitte Bardot.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais je pense qu'on peut quand même, elle, la mettre dans une catégorie pin-up par rapport à son sex appeal qu'elle dégage, et qu'on peut voir dans certains films.
C'est des choses à laquelle on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose de bien précis. Ce sex appeal qui va définir la pin-up.
Effectivement. Voilà.
Et est-ce que tu as d'autres noms comme ça de pin-up, peut-être pas très connus, Betty? Betty Gable, non, j'ai oublié son nom.
Bah, sinon, on peut aller plus vers le moderne aujourd'hui.
Oui.
Dans les pin-up. Ou sinon, une qui est sûrement pas connue du tout en France, et que même en Amérique, on ne la considérait peut-être pas un pin-up, mais qui était une chanteuse... québécoise qui faisait des spectacles qui est Alice Robbie. Et elle faisait des spectacles pendant la guerre pour les soldats. Donc d'accord. Elle allait chanter, mais de façon elle faisait un petit spectacle où elle exprimait quand même son sex appeal. Et on l'avait surnommée la pin-up des soldats canadiens français. Donc c'était une chanteuse, mais qu'à l'époque de la guerre, elle a joué un rôle de pin-up.
D'accord. Donc on apprend des choses.
Ouais.
Et donc la pin-up de référence actuellement.
Actuellement, qui est existante à notre monde moderne aujourd'hui.
Oui.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, ma préférée. Personnellement, j'ai mes préférences. elle s'appelle Mushroom. Donc, ce qui veut dire champignon.
D'accord.
Et qu'on raccourcit souvent à moche.
C'est une façon de voir les choses.
Oui, c'est vrai qu'en français, moche, ça peut dire autre chose. Mais moche, en anglais, c'est-à-dire mushroom.
Ouais, ça veut dire champignon.
Donc, oui, voilà, ça veut dire champignon. Son nom s'écrit M-O-S-H. C'est moche. Pin-up, moche, qui, moi, c'est ma préférée. Pour moi, c'est une référence. On la voit souvent aux côtés d'une autre référence que les gens aiment beaucoup, qui est Dita Von Teese, qui est
merveilleuse. Je pense que c'est la plus médiatisée,
oui,
on va dire.
Oui, je pense aussi.
C'est peut-être la plus médiatisée en France, tout à fait. Elle a un bon succès en France. Je pense que les gens la connaissent bien. Elle se donne en spectacle très souvent en France, je crois, d'ailleurs, aussi. Mais on peut voir souvent Moche très près de Dita Von Teese. Elles ont fait souvent des collaborations ensemble. Moche fait aussi du burlesque, elle fait aussi de l'effeuillage. Et on les a vus souvent faire des collaborations photos, des choses ensemble. Donc on peut dire que oui, aujourd'hui, ce sont elles sont des références toutes les deux. Et dans les plus connues, je dirais ces deux-là, oui.
Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres aussi, de toute façon.
Bah, on a Miss Wimmy Max, qui est quand même très connue aussi, qui a commencé avec un look plus pin-up 50 et qui aujourd'hui est plus dans un look qui va aller plus vers le psycho-punk, psycho-billy-punk. Là. Elle a évolué de look un peu. D'accord. Donc, on n'est plus vraiment dans le...
Dans le pin-up à proprement parler, on va dire.
Mais elle est très... elle, est très
elle a beaucoup de sa pile.
Oui, oui, elle a beaucoup de sex appeal, elle est toujours très suivie, même si elle a, elle a changé un peu son, son style, elle reste quand même dans la catégorie des pin-up et des plus connus et des plus suivis. Oui.
Mais écoute, Valentine, nous allons te reprendre après des musiques, après notre petite rubrique beauté dictée par notre petite Coco Scheim. La plus belle Coco avec ses cheveux rouges. Et nous te reprenons après, tout à l'heure. Donc là, on va demander à Angèle de nous passer une petite musique avant notre rubrique beauté.
Alors, je vais vous passer Come On Baby de Joanne Campbell, sorti en 1956.
On écoute. Avec ta petite rubrique beauté, qui est en rapport avec la pin-up, je précise.
Oui, bien sûr. Alors, on va parler du maquillage pin-up.
Nous t'écoutons. Alors, nous sommes toutes oui.
Que faut-il pour avoir un beau maquillage pin-up? Il faut commencer par le teint, forcément, qui doit être clair, pas quelque chose de très
foncé.
Coloré. Voilà. Alors, il faut appliquer son fond de teint au pinceau, ton sur ton, pour dissimuler les rougeurs, les petites imperfections. Après, vous pouvez aussi utiliser un peu d'anticerne si besoin. Pour apporter une touche d'éclat, on pose un peu d'enlumineur sur les zones d'ombre, comme les cernes, le contour du nez, les sillons du sourire. Et ensuite, on fixe le tout avec une poudre libre.
Impeccable.
Ensuite, on s'attaque donc au très d'eyeliner.
Ah, le truc super compliqué à faire.
Mais non, il suffit un peu d'entraînement. Ce trait d'eyeliner qui souligne le regard. Alors, il faut dessiner un trait bien net au-dessus de l'œil que vous épaissirez progressivement vers l'extérieur avant de finir avec une pointe légèrement relevée vers le haut.
Moi, c'est compliqué pour moi.
Ça paraît compliqué,
ouais,
mais...
Pour moi, ouais. Je sais qu'il y a des pochoirs. Donc, voilà. Au cas où, mesdames, il existe des pochoirs.
Il faut s'entraîner beaucoup, aussi. Mais ce n'est pas impossible.
C'est pas impossible.
Voilà. Ensuite, il faut aussi des cils XXL. Hein,
qui dit faux cils.
Il faut pas faire l'impasse sur les cils.
Ah ouais, donc, on rajoute des faux cils.
Si
on a des petits cils.
Si on a vraiment des petits cils. Hein. Voilà. Donc, on met bien, on allonge bien, on recourbe bien avec un mascara noir.
Oui, pas une autre couleur en fait, ça peut pas être blanc.
Bah non, blanc
ça va faire bizarre.
Ça va faire un petit peu bizarre quand même. Hein. Voilà. Et ensuite on passe à la bouche qui doit être
rouge.
Bien sûr, ça donne une invitation au baiser, on va dire le rouge. Hein. Mm-hmm. Alors vous pouvez choisir la couleur qui vous sied le mieux, le vermillon, le carmin ou le rouge coquelicot. Mais il ne faut pas l'appliquer à la va-vite. Hein.
Non, sinon ça va être
un
carnage.
Il faut un résultat sophistiqué et élégant.
Oui, ouais. En fait, la pin-up doit être élégante,
sophistiquée.
Ça sera toujours un rouge à lèvres rouge. On ne verra jamais de pin-up avec un rouge à lèvres rose. Mmh. Le nude n'est pas possible en pin-up, non. On va dire. Donc, ce que nous a dit...
C'est vraiment ce qui fait...
Ouais. Ce que nous a dit Coco, c'est vraiment la base même du maquillage. Finalement, la pin-up, ça reste quelque chose de très sophistiqué et de très léger.
Voilà.
On n'a pas les yeux hyper maquillés. On peut rajouter un petit peu de blanc pour allonger le regard. Parfois, on rajoute un petit peu de bleu. On peut peut-être rajouter un petit peu de marron clair pour approfondir le regard, mais dans la logique, ça reste quelque chose, en tout cas au niveau des yeux, de quelque chose de très léger. C'est vraiment le eyeliner qui va définir l'œil et la différence entre quelque chose de très maquillé, comme on peut voir au jour d'aujourd'hui, et ce rouge à lèvres rouge, obligatoirement
rouge.
Et pas d'autres couleurs...
qui fait l'effet glamour.
Oui, ouais, voilà. Qui, comme tu disais, une invitation au baiser. Quelque chose de très sex-appeal.
Voilà.
De très sensuel, de très glamour. Qui est agrémenté de la coiffure.
Tout à fait.
Nous allons nous retrouver d'ici quelques petites minutes. Je vous dis à tout à l'heure.